principalement à l'augmentation des indemnités des élus, hein, qui est de plus 34,5 kilos euros en année pleine, soit 45,6%. Un nouveau poste en 2021, évidemment, tu l'as souligné, hein, c'est l'amende au titre de la loi SRU qui est de 103 932 euros pour 2021. Donc, afin de maintenir l'équilibre et de préserver une épargne nette positive, le budget primitif 2021 présente une augmentation significative de la fiscalité communale. Ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire, rajouterai-je en annexe. Donc, en taux, 2 points, puisque nous en avons parlé depuis bien longtemps, hein, c'est pas nouveau. Et de toute façon, on était sûr que nous y passerions. Après, ça dépend pourquoi faire. Donc, 2 points d'augmentation, le taux communal du bâti foncier passe de 42,12 à 44,12, soit une augmentation du taux réel, en fait, de 4,75%. En montant, l'augmentation de recettes fiscales est plus importante, plus de 120 000 euros, ou 8,6%. La différence entre les deux, augmentation des taux et augmentation du montant, est due à l'augmentation générale des bases d'imposition, plus 0,2%, et à l'augmentation du nombre de maisons imposables. C'est naturel. Malgré cette forte augmentation des impôts, le budget primitif 2021 affiche une épargne nette théorique de 152 000 euros. Si le budget est respecté, à comparer aux 263 000 euros de 2020, généralement les dépenses sont surévaluées et les recettes sous-évaluées sur le budget primitif. On peut donc plutôt s'attendre à une épargne nette du même ordre que en 2021 qu'en 2020, c'est-à-dire supérieure à celle qui est annoncée en fait sur le budget primitif. Concernant le budget d'investissement, le budget primitif n'est pas réellement contraignant. La plupart du temps, il est annoncé des investissements importants qui ne sont pas en fin de compte réalisés sur l'année. Pour 2021, dans les annonces faites, il n'y a pas de projet d'envergure, juste une réserve pour le début de la rénovation des écoles. Et je rappelle, nous l'avons dit précédemment, qu'on attend, enfin, on aimerait travailler à une liste des équipements proposés, un calendrier de réalisation et les moyens de financer ces dépenses. Tu as évoqué que tu es en train de travailler sur un budget pluriannuel, donc je suppose que ça va apparaître dans ce budget pluriannuel. Je suis par contre étonné quand même que dans les dépenses de fonctionnement de cette année n'apparaisse pas la dépense liée à la construction de l'école de musique qui pourtant me semblait bien avancée. Et donc je vais...
On en a parlé.
Là, c'est
240 000 euros.
Ah, pardon. Alors,
j'ai une bêtise.
Pardon. Voilà. Après, j'interviendrai sur un autre point. Mais voilà. Donc ça, de toute façon, je le ferai passer, ce texte-là, pour le compte-rendu. Voilà. Merci.
Alors voici pour nous également quelques remarques et observations sur les éléments que vient de nous présenter M. Capot. On avait dit en commission que vous nous enverriez les présentations. Alors on a essayé de travailler sans les présentations, mais est-ce que la prochaine fois on pourra nous les distribuer?
Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît?
Oui, en commission, on avait évoqué le fait que vous pourriez nous envoyer la présentation que vous aviez faite à l'époque. Oui, celle-là, mais du coup, pour préparer, ça aurait été plus facile de notre part. Juste une petite remarque. Alors, donc, si l'on analyse les données de 2020, le budget de la commune est caractérisable de la manière suivante. Donc, la plupart des dépenses sont contraintes, sans réelle flexibilité. Donc, clairement, elles ne peuvent raisonnablement être diminuées aisément. La capacité d'emprunt de la commune est de plus en plus importante. Donc si on regarde le ratio de surendettement qui est à 0,05, avec le seuil d'alerte qui est à 1,21, on a une grande marge de flexibilité. La commune peut donc potentiellement s'endetter, on évalue ça à plus de 3 millions d'euros, Montferrier serait donc en capacité d'investir, et c'est une donnée qui a évidemment un fort impact sur les projets éventuellement engageables dès 2021. Enfin, la réforme fiscale de la taxe d'habitation a également un impact sur ce budget. Maintenant, si l'on regarde plutôt les perspectives pour 2021, nous pouvons souligner les éléments suivants. En premier lieu, on décompte de nombreuses charges supplémentaires par rapport à 2020. Alors là, certaines de mes remarques vont être redondantes avec les collègues qui sont intervenus avant, mais on est sur une analyse factuelle de ce que vous nous avez présenté. Alors, ces nombreuses charges supplémentaires vont avoir un impact loin d'être négligeable. À titre d'exemple, on peut donner l'augmentation des charges courantes de fonctionnement. Là, on constate une augmentation d'environ 60 000 euros. L'augmentation de l'enveloppe destinée aux indemnités des élus, en effet, elle représente non moins de 40 000 euros en plus sur une année pleine. Année pleine, ce qui sera le cas pour 2020, hein, puisque ce n'était pas le cas pour 2021, pardon, ce qui n'était pas le cas en 2020. Et enfin, le glissement des frais de personnel, hein, qui est naturel, mais qui est estimé à environ 65 000 euros. Et pour mémoire, et pour rappel, on était à 80 000 euros entre 2017 et 2018, et 75 000 euros entre 2018 et 2019. Un autre élément, et non des moindres, c'est l'amende infligée aux communes ne respectant pas leurs obligations à l'égard de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, qui s'élèvera pour notre commune de Montferrier en 2021 à 103 932 euros, ce que vous nous avez présenté. Alors la commune paye ainsi lourdement le renforcement des sanctions à l'égard des communes ne participant pas à l'effort de rattrapage en matière d'offres locatives sociales. La question va alors se poser, hein, de la politique que vous planifiez de mettre en place pour les années à venir, puisque chacun sait qu'il y a nécessairement un décalage entre la décision politique et la construction effective des logements à caractère social. Ainsi, si l'on reprend tous ces éléments, l'augmentation prévisionnelle des charges de fonctionnement avoisine les 330 000 euros. Par ailleurs, cette fois-ci, si l'on s'attache maintenant à détailler les recettes, ces recettes progressent peu au regard des charges annoncées. Donc on estime à environ 50 000 euros la progression. Le différentiel entre 2020 et 2021 est de 220 000 euros, à comparer avec l'épargne nette qui était de 260 000 euros en 2020 et de 275 000 euros en 2019. Donc on voit bien qu'on a un glissement, une réduction. Nous avons néanmoins noté, hein, Monsieur Capot, suite à votre présentation, l'augmentation de la taxe additionnelle des droits de mutation qui sera supérieure à ce qui a été indiqué dans la présentation et qui est un élément probant de plus. On note également une très faible épargne nette qui est gageur d'un déséquilibre avéré entre les recettes et les dépenses de la commune. Pour rappel, l'épargne nette ou autofinancement est donc la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Elle correspond donc à la possibilité pour Montferrier de financer, une fois payée, l'ensemble des dépenses courantes, des opérations d'investissement plus importantes. Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de dettes. Enfin, il nous semble également dommage que l'impact de la crise sanitaire n'ait été que peu pris en compte dans la construction de ce budget. Donc si on est optimiste, hein, vous l'avez indiqué en préambule, mais si on est optimiste, à minima 6 mois de crise pour 2021, donc on devrait être, si on prend sur l'année 2018, une année normale, divisée par deux. Et que la partie investissement soit si peu détaillée, avec également peu de projets structurants pour la commune. À titre d'exemple, on en a parlé pendant la commission, donc je me permets de l'évoquer ici, c'est... Qu'est-il advenu de l'achat des caméras de surveillance, un des projets qui était discuté. Ne serait-il pas important, et là je rejoins nos collègues, d'intégrer une programmation et un investissement pluriannuel avec des échanges en commission et des discussions sur cette programmation. Enfin, en conclusion, au regard des éléments annoncés, voilà, je voulais vous indiquer que nous allions... voter contre le budget primitif proposé aujourd'hui pour tous les éléments que je viens de vous lister. Merci.
vote. Chacun s'est pas exprimé. Alors, voilà. Donc vous avez ici donc le budget. Voilà, alors. Donc, on est obligé de on le vote par chapitre. Hein. Donc, on va commencer par le budget de fonctionnement dépenses. Donc, les charges à caractère général, donc 823 500. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, il y a trois abstentions, deux contre. Charge de personnel et frais assimilés, 1 537 760. Même vote. Atténuation de produits, 738 102. Même vote. Virement à la section d'investissement, 1 906 706 euros. Même vote. Autre charge de gestion courante, 228 960. Même vote.
Oui.
Charge financière, 4 380 euros. Même vote.
Oui.
Charge exceptionnelle, 10 000 euros. Même vote.
Oui.
Dotation aux amortissements et provisions, 5 000 euros. Même vote.
Oui.
Voilà pour le budget de fonctionnement de dépenses. Je passe au budget de fonctionnement recettes. Alors, résultat de fonctionnement reporté, 1 685 870. Même vote. Atténuation de charges, 15 000 euros, même vote.
Oui.
Opération d'ordre et transfert entre sections, 37 506 euros, même vote.
Oui.
Produits des services du domaine et ventes diverses, 233 500, même vote.
Oui.
Impôts et taxes, 3 003 096 000, même vote.
Oui.
Dotation et participation, 209 000 euros, même vote.
Oui.
Autres produits de gestion courante, 78 000 euros, même vote.
Oui.
Produits financiers, 6 euros, même vote.
Oui.
Produits exceptionnels, 115 678 euros, même vote.
Oui.
On passe au budget d'investissement. Alors, pour un total de dépenses de 2 623 319. Opération d'ordre et transfert entre sections, 37 506 euros, même vote.
Oui.
Emprunt et dette assimilée, 31 400 euros, même vote.
Oui.
Immobilisation incorporelle, 55 878 euros, même vote.
Oui.
Subvention d'équipement versée, 37 506 euros, même vote.
Oui.
Immobilisation corporelle, 464 186 euros, même vote. Immobilisation...
Oui, attends, c'est le chiffre. Combien tu as dit? 400?
Alors, c'est...
On est bien sur immobilisation corporelle.
Oui, oui, oui. 37 506.
Non, ça c'est subvention.
Ah, 464 000... 448 843.
Ah ouais, d'accord. Même vote. Oui, mais c'est quoi le chiffre finalement?
Je sais plus. Attendez.
448 843.
Ouais,
c'est ça.
Ouais,
c'est ça.
Même vote. Ouais. Après, immobilisation en cours. Alors, où c'est qu'on est immobilisation en cours? 2 011 126 euros. Même vote.
Oui.
Recette, virement, section de fonctionnement. Alors, c'est 1 906 706 euros. Même vote.
Oui.
Résultat, report résultat antérieur, 244 799. Même vote.
Oui.
Opération d'ordre, 123
248 euros, même vote.
Oui.
Dotation fonds divers et réserves, 287 506 euros, même vote.
Oui.
Et subvention d'investissement, 40 000 euros, même vote.
Oui.
Voilà.
Bravo et merci.
Fatigue, hein. C'est gentil. Allez, on passe aux subventions.
Alors, on va passer aux subventions pour les associations. Donc, 2000, à partir de... Attends, tu peux rester. À partir de novembre 2021, nous allons changer, octobre-novembre, fin d'année, nous allons changer le mode d'attribution des subventions aux associations et nous allons demander à chaque association de nous faire une demande officielle avec différentes pièces à fournir pour cette demande de subvention. Et il y aura un groupe de travail, une commission qui se mettra en place pour décider à qui on donnera la subvention en fonction de ce qui sera fait comme projet dans l'année, du nombre d'adhérents, etc., de l'investissement, de l'implication avec la mairie, etc., etc. Et je pense qu'on s'arrangera aussi pour que on ne donne pas systématiquement tous les ans aux mêmes associations la même subvention. Je pense que ça variera chaque année. Il y aura des associations qui, une année, auront une subvention, l'autre année, peut-être organiseront moins de choses, ou auront une chute au niveau du nombre d'adhérents, ou seront moins impliqués au niveau de la commune, et donc cette année-là, ils ne recevront pas de subvention, ou une subvention très inférieure. Donc on va changer un petit peu le mode d'attribution des subventions par rapport à ce qui a toujours été fait depuis de très nombreuses années. Donc là, nous repartons sur 2021, je vais dire comme l'année dernière. Pourquoi ? Parce que c'est un très gros travail dont est responsable Madame la Griffole, puisque c'est elle qui gère les associations. C'est un très gros travail à mettre en place, parce qu'il faut reprendre contact avec toutes les associations et demander tous les papiers nécessaires pour mettre au carré le dossier association et ensuite monter ce dossier de subvention avec les pièces que l'on demandera pour la demande de cette subvention. Donc Madame la Griffole travaille, elle a déjà fait pas mal d'associations. Évidemment, vous savez qu'au sein de notre commune, nous avons plus de 80 associations, hein, c'est énorme, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et aller demander une première fois, une deuxième fois, une quatrième fois les pièces, avant d'arriver à avoir un dossier complet, ça prend du temps. Donc, cette année, on revote la même chose que les autres années, et à partir de 2022, les subventions seront détaillées en subventions culturelles, sportives, enfin voilà, on fera un gros travail sur les subventions de nos associations. Donc, je vous propose le tableau que vous avez eu. Pour repartir donc sur, comme associations qui seront aidées, ça sera l'association des parents d'élèves, l'association Saint-Étienne, donc responsable au niveau de l'église, le tennis club, l'Olympique Montferrier, donc le foot, le troisième âge, la chasse, la pétanque, les arts martiaux, les enfants de Montferrier, l'association Vie et Animation, la crèche Les Câlins, l'association Culture et Loisirs, le CCFF, l'association La Lire, les anciens combattants, la Queduc, le comité de jumelage Zinal, le Zonta, le tir à l'arc, l'école de rugby du Pic Saint-Loup, les amis de la chapelle, SOS Les Environnements, au fil de l'art. Sachant que nous avons décidé d'octroyer une subvention exceptionnelle au club d'arts martiaux. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, quand nous avons donné les subventions au club de taekwondo, ex-taekwondo, aujourd'hui arts martiaux, on leur a donné une subvention de 2100 euros l'année dernière, alors qu'ils remontaient le club de taekwondo et qu'au moment du don de cette subvention, ils n'avaient qu'une dizaine d'adhérents. Donc, à l'Assemblée Générale, qui a été présentée, donc, au cours de laquelle étaient présents M. Capot et M. Chrétien, adjoint au sport scolaire,
il leur a été dit, nous vous donnons cette subvention de 2 100 € pour vous aider à démarrer cette nouvelle association, puisque Taekwondo s'était arrêté, il redémarrait sur quelque chose, mais elle n'est pas adaptée au nombre d'adhérents que vous avez, puisqu'ils avaient à peine 10 adhérents au démarrage, et on a pensé que 2 100 € c'était beaucoup pour cette petite association. Donc on leur a bien expliqué que ces 2 100 € serviraient sur les deux années, 2020 et 2021. Ça a été acté en Assemblée Générale du Club d'Art Martial, et ça tout est très bien passé. Cette année, on s'est dit que si on présentait comme bilan 0 don à l'association Les Arts Martiaux, on allait avoir au niveau de la commune des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi on donne 0 aux arts martiaux. Et donc, on a dit qu'on allait faire un don exceptionnel de 500 € à cette association cette année. Je les ai eus dans mon bureau avec M. Capot et M. Chrétien, et nous leur avons expliqué qu'on faisait un don exceptionnel de 500 € que nous lisserons après sur les années à venir, et on reprendra la subvention après l'étude du dossier, la demande qui sera faite de la subvention, etc. Donc aujourd'hui, vous avez sur le tableau des subventions un total donc de 90 000 €, avec du non affecté qui est de 1 280 €. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de bien vouloir voter les subventions pour toutes les associations du village. Est-ce que vous avez d'abord des questions à poser sur ces subventions ?
Oui, moi j'ai une remarque à faire sur les subventions.
Ah, pardon, oui, je vais... T'as aussi quelque chose à dire
pour moi ? Mais à moins que vous ayez à intervenir, intervenez d'abord.
Oui, je interviens si tu veux, d'accord. Oui. Merci Michel. Oui, madame la maire, chers collègues.
Est-ce que vous pouvez parler plus fort, monsieur Bord, si vous voulez qu'on vous entende ?
Alors, nous allons exceptionnellement voter contre ces demandes de subvention. Et j'en explique la raison. Nous ne sommes pas contre les subventions aux associations, bien au contraire. Mais nous sommes contre une distribution arbitraire de ces subventions pour 2021. Nous avions voté pour en 2020, nous voterons contre en 2021. Alors, un tableau avec seulement le montant de la subvention pour chaque association, cela nous paraît insuffisant pour voter. Je pose la question, doit-on voter à l'aveugle ? Plusieurs questions se posent. Première, les subventions ont été, pour la quasi-totalité, reconduites de 2020 à 2021, sauf, comme vous l'avez évoqué, les arts martiaux. On se demandait pourquoi, vous venez d'en donner la raison. Néanmoins, je rectifie, puisque j'ai eu la présidente au téléphone également, et ils ont à ce jour 41 adhérents, et ils fonctionnent toujours. Non affecté, il y a une somme importante. Je me demandais pourquoi. La question que je me posais, c'est que pourquoi un tel montant en 2020, alors que le nombre d'associations n'ont pas fonctionné ? Est-ce que les animateurs ont été rémunérés pendant la pandémie et l'arrêt des activités associatives ? C'est le premier point. Deuxième point. Pourquoi ces différences entre le montant des subventions ? Passe de 150 € à 3 200 €, 500 €, etc. Pourquoi le nom des associations inscrites sur le tableau est différent de leur nom véritable ? Olympique de Montferrier, c'est bien OM, mais ça n'existe pas. C'est Entente Saint-Clément-Montferrier, etc. Expliquez, bon, THN, vous venez de dire tir à l'arc, je ne savais pas. Association via animation, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi la liste sur le tableau donné ici est différente de celle sur le site de la mairie ? Pourquoi certaines associations sur le site de la mairie utilisent gratuitement la grande salle de Vézou, ou utilisaient, je pourrais dire, hein, puisqu'en 2020 ça n'a pas été le cas, la grande salle de Vézou pour des soirées payantes ? Pose la question, est-ce légal ? Troisième point, lors du conseil municipal du 21 juillet 2020, mais impossible de vérifier en audio, parce que l'audio n'est pas encore disponible, nous avions déjà demandé comment sont attribuées ces subventions et une remise à plat des subventions, une discussion. En conclusion, comment et sur quels critères sont attribuées les subventions aux associations? Pourrions-nous avoir un compte rendu d'activité de chaque association qui demande une subvention? Pourrions-nous assister et être invités à l'AG de chaque association? Nous demandons, pour discuter de tous ces points, qu'un groupe de travail soit mis en place pour réfléchir à l'attribution de subventions, comme vous l'avez indiqué en préambule, Madame le maire, et d'ailleurs, je vous en remercie.
Merci, Monsieur Bourg. Monsieur Bourrelli.
Oui.
Bien. Alors, pour prendre le même schéma d'intervention que nos collègues. Nous voterons pour les subventions, comme nous l'avons toujours fait, parce que la question de savoir si les subventions sont attribuées suivant les projets qu'elles ont annoncés, c'est pas le problème de l'association, c'est le problème de la commune, qui n'a pas bien fait son travail jusqu'à présent, en ne faisant pas ce qui se fait partout. J'ai travaillé toute ma vie dans le milieu associatif, je n'ai jamais eu une subvention qui ne soit pas justifiée. Jamais. Il n'y a qu'à Montferry que j'ai eu ça. Donc, ce ne sont pas les associations qui sont responsables de cet état de fait, c'est la commune. Donc, on ne va pas les pénaliser alors qu'elles n'y sont pour rien. Ça, c'est la première chose. Les montants et la façon dont les subventions sont accordées, j'ai confiance dans le travail qui va être fait par un groupe de travail auquel, j'espère, nous participerons pour essayer de, justement, déterminer quels sont les critères pour lesquels les subventions sont attribuées, les montants, etc. Voilà. Je suis d'accord que les subventions n'ont pas à être systématiques et systématiquement sur les mêmes montants. Ça dépend des projets de la structure et du travail qu'elle fait. Ça me semble être une logique imparable. J'ai cependant une demande à faire que j'avais déjà faite lors des conseils municipaux de ce même type, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le tableau qui nous est présenté, la façon dont il nous est présenté. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de ce tableau une association qui n'a absolument rien à voir avec les autres, c'est la crèche Les Calins. Elle touche une subvention de 65 000 euros. D'accord ? Mais elle touche une subvention de 65 000 euros, elle n'a rien à voir avec la crèche, avec les autres associations, parce que d'une part, elle a une délégation de service public, on peut dire, hein, et d'autre part, bien sûr, la commune paye une subvention de 65 000 euros, mais sur cette subvention, elle reçoit 66% de recettes de la CAF. Donc quand on dit... Parce que j'avais entendu dire ce chiffre-là, ça nous coûte cher la crèche. Mais non, ça coûte 15 000 euros. Nous avons levé 66%, sachant que nous, le chiffre que l'on a là, c'est la demande de subvention. Mais vous valorisez les loyers que vous ne faites pas payer à la crèche, vous valorisez les travaux que vous ne faites pas payer aux gens de la crèche. Donc tout ça, ça fait une somme que vous présentez à la CAF et sur laquelle la CAF vous donne 66%. Donc là, sur les 65 000 euros, eh bien, ça coûte en fait à la commune aux alentours de 15 000 euros, en gros. Et ça a une autre incidence. C'est que si on enlève les 65 000 euros de la crèche, les 90 000 euros qui sont versés aux associations culturelles et sportives, on se retrouve avec un résultat de 25 000 euros qui représente à peine 0,6%, 0,67% du montant du budget de la commune, ce qui est extrêmement faible. 25 000 euros, vous dites qu'à 80 associations, là on ne les a pas, si elles ont toutes une réelle activité, à mon avis, c'est pas suffisant. Hein, bon, c'est un avis personnel, mais il me semble que c'est pas suffisant. Quoi. Après, sur les montants des subventions, tout ça, On verra plus tard quand le travail sera fait avec l'EDA, hein, parce qu'effectivement, ça m'a toujours semblé un peu bizarre. Il y a une autre chose que j'aimerais demander, c'est que dans la réflexion que nous allons avoir sur le montant des subventions à donner, soit intégré des subventions non annoncées comme des subventions qui sont versées aux associations dans le cadre de demandes particulières qui sont faites au cours de l'année. On le sait très bien. Quand j'étais président de l'Aqueduc, il m'est arrivé pour des manifestations de dire au maire, ben voilà, on a besoin de louer un micro, ce micro-là, ben, ça coûte 700 balles, est-ce que vous pouvez le prendre en charge? Pour moi, c'est une subvention accordée à la structure. Ce n'est pas normal. L'association doit faire un projet pour l'année, pour laquelle elle fait un budget, elle reçoit l'argent qu'elle a demandé, si ça paraît justifié, et basta. C'est fini. D'accord? Sauf... exception qui peut toujours arriver, on n'est pas à avoir un fonctionnement brutal comme ça, mais voilà, ça me semble plus sain, parce que du coup, on sait réellement ce que chaque association reçoit réellement, et ça me semble plus juste, voilà. Donc c'est la dernière demande que nous aurions à faire pour les associations, voilà.
Je vous remercie beaucoup, et je vois que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Oui. Donc je trouve que 2022 sera une année exceptionnelle pour les associations, puisque nous allons redémarrer sur des bases complètement différentes et beaucoup plus saines. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir dit ça. Je vous ai dit en préambule ce que nous comptions faire. Nous sommes tous d'accord. Donc Eda, Madame Lagrifol, vous avez du travail pour 2022. Nous allons donc passer au vote. Madame Lagrifol, est-ce que vous pouvez sortir, s'il vous plaît, puisque les membres faisant partie d'associations, on va lui demander de sortir, s'il vous plaît. Oui. Si Madame Jana était là, elle sortirait aussi, puisqu'elle fait partie de l'association Les Jardins Partagés.
Ah, mais moi aussi.
Soit, donc, tous les gens qui font partie d'associations, Aqueduc, ACL, enfin bon, Danse.
Dans les bureaux. Dans le bureau de l'association.
C'est bon.
Parce que Eda est au conseil d'administration.
Elle est au conseil d'administration, Eda. Donc, on va passer au vote. Donc, qui est contre ces subventions en général? Donc, il y a deux contre. Madame Gaulin, Monsieur Bord. Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Non, on n'a pas fini. On n'a pas fini du tout. On peut les appeler. Merci. Monsieur Capot est monté éteindre le budget. On va passer donc à la cession de parcelles au conseil départemental. Donc, nous avons le département qui nous a contactés pour nous acheter une parcelle de terrain pour le lien. Donc le lien, vous savez que c'est la liaison, donc je vous donne exactement la définition, liaison intercantonale d'évitement nord. On l'appelle toujours le lien, hein, donc c'est pour ça que je ne connais pas par cœur la différence pour les lettres. Donc le lien rejoint l'A750 à la RD86 de Saint-Gély-du-Fest. Donc là, le département nous a contactés parce que le long de cette RD86, qui est exactement la portion au niveau du golfe de Coulondres, à ce niveau-là, nous avons des terres, puisque vous savez ou vous ne savez pas que nous avons des terres à Saint-Clément. On a un certain nombre d'hectares de terres à Saint-Clément qui sont essentiellement des terres de viticulteurs, qui entretiennent donc ces terres, plantes, récoltes, etc. Et ces vignes, d'ailleurs, ont été arrachées depuis plusieurs années. Il n'y a plus qu'une seule vigne qui est travaillée. Et nous avons des parcelles où on a du bois, de la garrigue, voilà, qui se situent donc, ces parcelles-là, justement, au bord de la route de la RD86 de Saint-Gilles. Donc le département nous a contactés pour nous demander l'achat de ces deux parcelles, à l'achat. L'achat donc de la parcelle 14, 10 734 en mètres carrés, ils n'en prennent que 1064 mètres carrés, et la A035 de 13 633 mètres carrés qu'ils récupèrent parce que ça, ça a été quelque chose qui leur a été déjà donné en 1990 quand ils ont créé ce lien, cette portion du lien, la commune leur avait rétrocédé cette parcelle. Aujourd'hui, ils ont besoin de ces 1000 mètres carrés supplémentaires parce qu'ils veulent passer à deux fois deux voies pour avoir la deux fois deux voies qui rentrera après sur Montpellier. Donc aujourd'hui, ils nous demandent l'autorisation, enfin, ils viennent nous demander de leur vendre cette parcelle de 1000 mètres carrés, ce que nous avons bien évidemment fait puisque nous ne faisons rien de ces parcelles. Et donc, cette parcelle, si elle doit servir au département pour élargir le lien, eh bien, on leur a vendu. Donc voilà pourquoi ce soir, je vous demande de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires pour vendre ces 1000 mètres carrés au département et à régulariser les 13 000 mètres carrés qui ont déjà été donnés en 1990 pour la création de ce lien. Voilà, donc nous allons passer... Est-ce que vous avez des questions d'abord? Non?
Simplement, je me demandais, est-ce que ça a quelque chose à voir, c'est par cette parcelle-là particulièrement, avec, à un moment donné, dans le mandat précédent, nous avions fait un échange de parcelles avec quelqu'un qui habitait là.
Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment la parcelle le long de la route qu'ils ont besoin de racheter pour l'élargir.
D'accord.
Donc, ça n'a rien à voir avec l'échange qui a été fait sous l'autre mandat. Voilà, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point numéro 5 de l'ordre du jour, c'est la demande de subvention pour justement l'acquisition du nouveau logiciel à la bibliothèque. Je vais laisser M. Lafabrier expliquer.
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Donc, comme expliqué dans la notice explicative, depuis 2001, l'informatisation de la bibliothèque municipale, malgré des mises à jour successives en 2003, 2006 et 2013, il n'y a pas eu d'évolution de ce logiciel-là. La crise sanitaire, notamment, a mis en évidence le clic and collect et la nécessité de mettre en place ce dispositif-là, mais pas seulement. Il y a aussi le Règlement général de protection des données, avec lequel on doit se mettre en conformité, la mise en place d'un catalogue en ligne et la compatibilité des versions entre les médiathèques de la métropole de Montpellier et notre bibliothèque municipale pour la consultation du catalogue collectif. De manière accessoire, il y a également l'édition des statistiques qui permettront aux collègues qui sont à la bibliothèque, de savoir le taux de fréquentation, le taux d'utilisation, des choses comme ça, qui peuvent être intéressantes pour du benchmarking après. Du coup, ce logiciel qui est également de la formation et représente un montant de 3 540 € TTC. Voilà, donc il s'agit essentiellement de la modernisation du système de gestion et du système informatique sur lequel on vous demande de délibérer ce soir. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des observations.
Juste une question.
Juste une question, parce que j'avais posé cette question-là à un moment donné, concernant effectivement la compatibilité. Parce que...
Excusez-moi, je ne sais rien.
Moi, je suis un grand utilisateur et mon épouse des bibliothèques, que ce soit de Montpellier, de Clapiers ou ailleurs. Et effectivement, on trouvait dommage que quand on consulte le catalogue de Montpellier, on n'avait pas les données de la bibliothèque de Montferrier. Donc, vous dites, si j'ai bien compris, que grâce à ce logiciel, ce sera compatible et on pourra voir sur les... D'accord, mais c'est parfait. Merci.
Voilà, c'est une évolution qui paraît nécessaire aujourd'hui à l'ère du tout numérique. Madame la maire, je vous propose.
On va passer au vote. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci pour la bibliothèque. Elles vont être très, très contentes.
Allez. Passe au dernier point.
Le dernier point, c'est le soutien à l'achat de livres imprimés, toujours pour la bibliothèque.
Alors, toujours sur la même thématique de la bibliothèque municipale, on vous propose de rentrer dans le cadre du CNL qui propose une subvention à la relance exceptionnelle des bibliothèques par l'achat de livres imprimés. Alors, on souhaite rentrer dans la première phase qui se clôture au 30 avril 2021. Et pour cela, il faut qu'on donne certains éléments, comme le budget qui a été consommé pour l'achat de livres en 2020, qui se monte de mémoire à 7 600 euros. Et pour le budget que vous avez voté ce soir pour l'achat de livres, qui doit être compris, qui est compris à environ 9 000 euros. Donc le taux accordé peut varier entre 15 et 30%, soit un montant de subvention allouée compris entre 1 500 et 30 000 euros. Cette dépense, bien évidemment, en tout cas cette subvention, sera une subvention qui sera allouée à l'achat de livres imprimés. Et on vous remercie d'avance pour la bibliothèque et pour ses utilisateurs.
Alors, excusez-moi, je ne sais pas que je vais monopoliser la parole, mais je ne comprends pas ce que c'est que le taux de 15 et de 30%. Mmh. Je ne sais pas sur quoi il s'appuie, parce que s'il s'appuie sur le même chiffre, je ne comprends pas que 15% corresponde à 1 500 euros et que 30% corresponde à 30 000 euros.
Mmh. Alors, ce que je pourrais faire, c'est vous envoyer le texte explicatif, si vous le souhaitez, du CNL.
Ah d'accord, donc il y a une justification à ça.
Oui, tout à fait.
C'est pas une erreur. Non, je me suis dit, il y a une erreur dans le
montant.
Non,
tout à fait. C'est des critères d'attribution qui sont positionnés par le CNL et je pourrais vous envoyer, du coup, les critères. Ah,
je veux bien. Voilà. Je veux bien. Merci.
D'autres questions? Non? On va passer donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous allons passer donc aux questions diverses. Donc je crois que M. Borg et Mme Bollin, vous avez des questions.
Quelqu'un le registre? Madame Lagnefeld.
Donc la première question reste sur la thématique de l'informatisation des bibliothèques. C'est l'aide et l'apprentissage à l'usage du numérique pour les personnes en difficulté, donc les personnes âgées, les personnes non équipées, les personnes handicapées. Quelques constats qui reflètent l'importance d'un accompagnement. Les plus de 70 ans non connectés souffrent d'une difficulté à s'approprier l'usage du numérique. Et on sait qu'en ces périodes actuelles, c'est encore plus prégnant. Le numérique est aussi un puissant vecteur de lien social pour nos aînés, qui entretiennent ainsi plus facilement leurs relations avec les amis et la famille. Donc nous aurions des suggestions, des propositions à vous faire afin de pallier ces carences, qu'un ordinateur puisse être installé à la bibliothèque et que des bénévoles puissent être sollicités pour animer de manière régulière les activités autour de cet ordinateur pour recevoir les personnes qui souhaitent les utiliser et afin de les aider. Une autre proposition pourrait être d'aider les personnes à manipuler un ordinateur, à choisir l'équipement et éventuellement à leur faire prendre connaissance de l'Internet, du courriel, enfin voilà, de pallier les manques et de lutter contre la déconnexion que connaissent une partie des plus âgés de notre commune.
Écoutez, c'est encore une fois, ça tombe bien parce que nous nous rejoignons. Je suis complètement consciente du besoin des personnes âgées sur le numérique. Je m'en suis rendu compte pour la vaccination. Il est vrai que les gens n'ont pas su utiliser Doctolib et ont été bien contents de pouvoir appeler la mairie et d'avoir les secrétaires qui ont géré pour elles et eux la prise de rendez-vous dans les différents hôpitaux et cliniques pour la vaccination. Donc il y a, c'est vrai, un gros problème de numérique avec les personnes âgées et c'est tout à fait dans notre idée, nous en tous les cas, depuis qu'on est arrivé en juillet 2020, de mettre en place cette aide à l'utilisation des ordinateurs. Donc là, nous avons déjà acheté un ordinateur avec un écran et nous comptons bien mettre en place cette aide. Alors aujourd'hui, je pense que la bibliothèque, ce n'est pas un bon choix, je m'excuse de vous le dire, parce qu'il y a déjà tous les... Bon, aujourd'hui, nous sommes en Covid, hein, donc nous ne parlons pas de la période Covid, nous parlons de la vraie vie qui redémarrera très certainement au mois de septembre. À la bibliothèque, il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens qui viennent chercher leurs livres, ce sont des bénévoles qui sont là, donc je pense que ce n'est pas le lieu adéquat, la bibliothèque. Par contre, on pourrait réfléchir à un autre endroit dans la commune, une salle associative par exemple, où on pourrait être plus au calme pour pouvoir expliquer aux personnes âgées, ou même à la mairie. Pourquoi pas, hein, à la mairie, on peut très bien décider que le mardi de 15h à 16h, il y aura une heure de numérique et les personnes âgées montreraient, s'inscriraient sous une forme de liste, enfin bon, je ne sais pas, à réfléchir. Donc c'est tout à fait dans nos projets. Nous comptons le mettre en place et nous le mettrons en place. Voilà.
Deuxième question. Alors, les deuxièmes, troisième question, ce sont des questions que nous avons déjà posées peut-être, mais que nous posons d'une manière un peu différente. La première, c'est sur les logements sociaux. Dernièrement, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, dans un entretien au journal du dimanche, publié en 2021, a annoncé que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui impose aux communes de 3500 habitants un taux de 20 ou 25% de logements sociaux, sera pérennisée au-delà de 2025, sa date butoir. Madame la ministre a annoncé également que les sanctions seront plus automatiques et plus dissuasives, avec des sanctions planchées qui seront rehaussées en cas de récidive, je cite. En commission des finances, M. Capot a indiqué que la taxe sur les logements sociaux pour notre commune s'élèverait à plus de 100 000 euros, ce que vous avez indiqué, pendant 3 ans. La commune, comme on le sait, reste très en dessous des taux imposés. Et la question, c'est, pourriez-vous nous indiquer maintenant les perspectives relatives aux logements sociaux pour ce mandat? En gros, c'est construction ou taxe, et comment est-ce que vous comptez procéder jusqu'en 2026.
Donc là, nous sommes dans le plan triannuel qui se termine fin 2022 et qui redémarrera donc de 23 à 26. Donc jusque fin 2022, nous aurons la pénalité de 103 000 et quelques euros. Cette pénalité, nous l'aurons quoi que nous fassions aujourd'hui des logements sociaux ou pas. Pourquoi ? Parce que nous avons un besoin aujourd'hui de 437 logements sociaux sur la commune. Il est bien évident que d'ici à 2023, nous n'aurons pas construit les 437 logements sociaux. Donc la pénalité de 103 000 euros, nous l'aurons. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, nous avons l'intention de construire des logements sociaux. Ça, je l'ai déjà dit, je le répète, nous avons le dossier distillerie où nous avons des logements sociaux, nous avons le dossier hameau de Bayargues où nous avons des logements sociaux, nous avons le dossier Floralie bloqué, comme vous le savez très bien, avec des logements sociaux. Donc nous avons, d'ici à 2023, la possibilité de voir sortir des logements sociaux. Mais ils ne seront pas suffisants pour nous éviter l'amende. Ça, c'est absolument certain. À partir de 2023, cette amende, comme vous le dites très justement, pourra être maintenue, doublée, triplée. Enfin bon, ça c'est M. le préfet qui décidera. Nous pourrons être déclarés en état de carence. Donc il va falloir produire des logements sociaux. Nous ne pourrons pas produire les logements sociaux qui vont nous être demandés pour le deuxième plan triennal. Ce deuxième plan triennal nous demande aujourd'hui, maintenant 2022, enfin début de fin 2022, quand nous retournerons voir M. le préfet, ça sera peut-être différent, nous demande déjà, nous l'avait dit en septembre quand nous y sommes allés, 125 logements sociaux sur le deuxième plan triennal. Ça sera peut-être un peu plus augmenté. Donc nous allons essayer de faire des logements sociaux. Les 126 logements, je ne sais pas si nous y arriverons. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le redis, nous n'avons pas de terrain, en tous les cas communaux, sur lesquels nous pourrons construire des logements sociaux. Il nous en reste très très peu, donc nous sommes en train de réfléchir pour savoir si sur les terrains communaux qu'il nous reste, si nous allons faire des logements sociaux ou pas. De toute façon, nous ne ferons pas 100% de logements sociaux parce que nous sommes contre. Il est hors de question de faire un ghetto de logements sociaux. Je pense qu'il faut une mixité sociale, c'est une obligation. Donc, nous n'arriverons pas à faire 100% de logements sociaux, donc nous ne ferons pas 120 logements sociaux. C'est évident. Donc, nous allons avoir sur le deuxième triennal, encore une fois, une amende. Mais, comme je le dis toujours et je le répète, il est important de montrer au préfet que nous ne sommes pas contre les logements sociaux. C'est très important. Nous ne sommes pas contre. Nous allons faire un effort, mais nous allons faire un effort en fonction de notre commune et des contraintes de notre commune. C'est-à-dire peu de terrain, le Lez, la Lironde, Natura 2000, enfin, les zones agricoles, etc., etc. Donc nous sommes très contraints. Conclusion, nous allons faire des logements sociaux, mais je pense que nous ne ferons pas les logements sociaux qui nous seront la quantité des logements sociaux demandés dans le deuxième triennal. Donc attendez-vous à ce que nous ayons encore une amende sur le deuxième triennal. Il va falloir juste espérer que, au vu des efforts que nous allons fournir en fonction de notre commune, le préfet nous gardera peut-être 100 000 euros et guère plus. Je me suis renseignée, j'ai contacté M. Martigny à Fabrègues, il a une pénalité de 256 000 euros. Et pourtant, il fait des logements sociaux, il en fait, et il en refait, mais la pénalité, elle est de 256 000 euros. Donc, il faut s'attendre à ce que Montferrier ait toujours une pénalité sur les logements sociaux, parce que nous n'arriverons pas à atteindre le quota qu'on nous a imposé, puisque nous sommes passés du jour au lendemain à 3500 habitants et au-delà, et nous sommes rentrés dans cette loi avec un effet rétroactif, ce qui nous vaut aujourd'hui 400 logements de retard que nous ne pourrons jamais faire. Voilà pour les logements sociaux.
Il y a juste une question là-dessus. Les logements sociaux qu'on nous demande de faire représentent un pourcentage des logements que nous avons sur la commune. Donc, on ne peut pas nous demander normalement plus que le pourcentage en question. Est-ce que les 120 logements supplémentaires correspondent à quoi ? À une augmentation du nombre d'habitations.
Exactement. Puisque aujourd'hui.
Mais 120 logements, si c'est 25%, ça veut dire qu'il y a une augmentation de construction colossale. Ça veut dire qu'on a eu plus de 400 logements, maisons construites, je ne comprends pas.
Écoute, moi, c'est ce qu'on nous a dit à la préfecture. Aujourd'hui, pour ce premier plan triennal, on devait en faire 96. 96 pour ce premier plan triennal.
Oui.
Donc là, aujourd'hui, on aurait pu en faire. Aujourd'hui, on pense. 25, on va peut-être en faire 30, pas plus, hein. 35 peut-être, on n'arrivera pas à 96 là, hein, puisque nos limites des Floralies, on a un recours, donc du coup ils sont bloqués, on ne pourra pas les sortir. Le hameau de Baillarguet prend un retard extraordinaire, donc on les perd aussi. Donc il ne nous reste plus que la distillerie, qui est pour l'instant en balance, puisque vient de sortir l'histoire des EMBF hein, par rapport au ruisseau qui se situe au niveau de Caudalie. EMBF, donc ce sont des limites de construction de chaque côté d'un ruisseau. Donc là, ça impacte le projet que nous avions travaillé avec Michel Frey. Ce projet est très impacté. Donc là, nous sommes en discussion avec la métropole pour réduire le nombre de logements. On va être obligé, puisque c'est la loi. Donc on va être obligé. Donc je ne peux pas te répondre sur les 120.
Peut-être que je n'ai pas compris. Je suis en train de me dire tout d'un coup, peut-être que je n'ai pas compris une chose, c'est que on a 400 logements sociaux en retard. D'accord ? 400, admettons, 400 un peu plus, mais 400.
437.
Sur ces 400, ils ne nous demandent pas de construire les 400, ils nous demandent d'en construire 96. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils nous demandent, c'est une partie des logements sociaux qu'on doit avoir au total.
Tout à fait.
Si c'est ça, je comprends la logique. Sinon, je ne la comprendrais pas.
C'est ça,
d'accord.
C'est ça.
Je pense que c'est ça, en fait.
C'est ça. Ils nous demandent, ils l'étalent.
D'accord, ils l'étalent sur...
Exactement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous avons des divisions, donc ça se creuse de plus en plus. Donc aujourd'hui 437, demain 450, 500, et eux ils adapteront au fur et à mesure pour essayer de rééquilibrer. Voilà pourquoi on passe de 87 à 125 logements sociaux dans le deuxième triennal.
Pour te donner les chiffres, l'inventaire annuel 2020 avait donné 1750 résidences principales. À 25%, ça fait 437 logements sociaux. On en a 71, on a un retard de 366. Ça, c'était l'inventaire précédent. Mais aujourd'hui, on n'est plus à 1750, tu comprends ?
Oui, oui.
Parce qu'il y a eu des divisions, il y a eu des constructions, donc le phénomène s'est amplifié. Donc ce qui fait que c'est le chien qui se mord la queue, parce qu'on en produit, Mais quand on va arriver à la prochaine, on va se rendre compte qu'on a, on a juste compensé.
C'est pour ça que je vous dis, l'amende, il ne faut pas espérer qu'elle s'éteigne un jour. Elle ne s'éteindra pas. Enfin, je ne pense pas, sauf si la loi s'arrête, hein, évidemment, mais là, comme elle est reportée après 2025, je ne pense pas que l'amende s'éteigne un jour.
Dernière question sur le PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal Montpellier Métropole. C'est très, je pense, important pour la suite, M. Pourmont-Ferrier. Dans une interview au journal Hérault-Tribune, Coralie Mancion a déclaré que le PLUI sera effectif en 2023, car auparavant, nous allons consulter les habitants, il y aura l'enquête PLUI. Entre-temps, j'insiste, il y aura évidemment des modifications de PLUI, commune par commune, car certaines modifications ne peuvent attendre. C'est sur ce point que je voulais insister. D'où ma question. Les modifications du PLU doivent être mises en place maintenant. Pour le moment, nous n'en avons pas été informés en commission urbanisme, même si je me suis entretenu de cela avec M. Depont. Quand pourrons-nous en discuter et travailler ensemble? M. Depont m'a dit bientôt, je pense qu'il faut mettre en place, parce que c'est quand même très urgent et je dirais très important pour la commune de Montferrier.
Le PLUI 2023, déjà, on parle de 2024. Déjà. Bon, je pense que ça prendra encore du retard. Comme vous l'avez très bien dit, la métropole passe dans toutes les communes pour discuter du PLUI avec chaque commune, sachant que le PLUI, ça sera un socle commun avec des adaptations pour chaque commune. Il y a eu un roulement dans les communes et nous n'avions pas été, on ne nous a pas contacté pour nous dire de venir, et la réunion est arrivée ce matin. Ce matin, nous avons eu la métropole qui est venue nous voir à la mairie pour nous donner les grandes règles générales des futures réunions qui auront lieu pour préparer la mise en place de ce PLUI relatif à la commune de Montferrier, parce que nous avions eu déjà il y a quelques mois une réunion en visio où toutes les communes étaient, et là ils se sont déplacés dans chaque commune, et ce matin nous avons eu donc la métropole qui est venue nous expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Donc nous allons avoir une suite de réunions avec la métropole, et ils viendront sur notre PLU et nous discuterons ensemble de points bien précis, sachant que l'objectif de ce PLU, c'est quand même d'essayer de trouver des terrains pour construire. Hein, ça, il faut bien quand même se le mettre dans la tête, c'est comment construire et augmenter et comment densifier finalement Montferrier. Moi, je vous le rappelle, je me suis engagée en campagne en disant que j'essaierai de conserver notre village au mieux et que j'éviterai en tous les cas de construire à gogo pour faire plaisir à je ne sais qui. Donc, en tous les cas, je serai très vigilante sur ce PLUI, ça c'est évident. Je ne défigurerai pas le village pour construire absolument. Donc aujourd'hui, nous avons déjà notre problématique de division qui augmente notre problème de logement. Mais dès qu'on aura des réunions effectives, nous les travaillerons avec la métropole et ensuite nous ferons des groupes de travail. Peut-être, je ne sais pas comment on va mettre ça en place, peut-être pour en rediscuter tous ensemble. Enfin, je ne sais pas. Pour l'instant, j'attends un retour de la métropole pour qu'ils nous disent bien comment ils veulent travailler avec nous. Et à partir de là, on travaillera ensemble pour voir comment on peut faire avancer ce PLUI, sachant, je vous dis, que a priori, il est déjà reporté à 2024. Hein. Donc, voilà, on va prendre encore du temps et on n'ira pas plus vite que la musique, parce que, comme vous le dites, c'est quelque chose de très important. Et il ne faut pas passer à côté de choses qui pourraient nous pénaliser par la suite. Donc, voilà, je vous réponds sur le PLUI.
Si j'ai une suggestion à faire... Pour travailler sur ce PLUI. Moi, je me souviens que dans le mandat précédent, nous avions des réunions avec la métropole sur le PLUI et que c'était la commission d'urbanisme qui était chargée de participer à ces réunions. Ce qu'il a manqué, me semble-t-il, et que nous pourrions faire en plus, c'est que chaque fois que nous avons une réunion avec la métropole, nous discutons avec la métropole. Ensuite, nous travaillons en groupe de travail de la commune pour voir par rapport aux propositions si on est d'accord, pas d'accord, si on a des choses à rajouter. Ça permet d'enrichir la réunion suivante et de réunions comme ça peut-être arriver à...
Après, on ne sait pas du tout comment la métropole, parce que c'est un nouvel exécutif. Donc oui, on ne sait pas du tout comment ils vont organiser. Sous la mandature de M. Sorel, c'était organisé comme ça. Sous la mandature de M. Delafosse, on ne sait pas comment, ce qu'il va vouloir. Donc pour l'instant, on attend. On a eu une prise de contact ce matin. On attend de voir comment ça va s'organiser. Est-ce qu'ils vont reprendre ces réunions-là? Je ne pense pas. Mais bon, je ne sais pas. On va voir. Donc quand on en saura plus, on vous tiendra au courant. Hein, au niveau de la commission d'urbanisme, parce que, évidemment, c'est la commission d'urbanisme qui travaillera sur le PLU. Voilà.
Madame la Pé, je me permets une dernière question.
Je vous en prie, Monsieur Port.
Merci. J'ai été interpellé ce soir à propos du bulletin municipal entre l'Aise et l'Hironde. La personne qui écrit pour l'association En Bonne Compagnie m'a indiqué que son article ne paraîtrait pas dans le bulletin. Il a été, bien sûr, navré. Il se demandait pourquoi. Donc, voilà, je vous pose la question.
Alors, je laisserai Mme Georgette y répondre, mais je vais juste dire deux choses. Enfin, une chose, non. Nouvel exécutif, nouveau mode de fonctionnement. Comme nous allons changer au niveau des subventions, nous allons changer aussi au niveau du bulletin municipal et au niveau des articles des associations. Je trouve personnellement, je l'ai dit à l'équipe, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur les associations dans notre bulletin municipal. Je pense qu'il est important pour les administrés d'être au courant de ce qui se passe dans les associations, certes, mais aussi de savoir ce qui se passe dans la commune et ce qu'on y fait. Donc, je pense que ça va être mis en place par le groupe communication. Nous allons, toutes les associations pourront s'exprimer, mais pas toutes en même temps. Amélie, je te laisse étoffer un petit peu plus, si tu veux.
Vous m'entendez ?
Oui, voilà.
Alors, au niveau du texte remis par cette association, nous en avons discuté au niveau du petit groupe avec les élus. La tonalité du texte était un petit peu particulière et c'est juste pour cette raison qu'on a décidé cette fois-ci de ne pas le publier en l'état. Peut-être qu'on pourrait vous le transmettre, vous en prendrez connaissance. Le sujet était un peu particulier. Et il nous a semblé compliqué de le publier comme ça.
J'ai l'article, personne ne me l'a envoyé. C'est une réflexion effectivement philosophique. Personnellement, bon, je l'ai fait lire à mon épouse également, il ne nous a pas dérangé, mais bon.